Voici donc ce psaume 134 qui fait trois versets. Chant pour monter, voici, bénissez l'Éternel, vous tous les serviteurs de l'Éternel, ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel dans les nuits. Levez les mains de sainteté, bénissez l'Éternel. Il te bénira, l'Éternel de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Si vous ouvrez n'importe quel commentaire biblique, on vous expliquera que ce psaume est fait en deux parties. Il y a la première partie, versets 1 et 2, qui s'adresse aux prêtres, ceux qui se tiennent dans le temple. Bénissez l'Éternel, vous les serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans le temple, levez les mains vers son lieu de sainteté, etc., et bénissez l'Éternel. Et puis, la deuxième partie serait la réponse des prêtres, qui, elle, est au singulier, et qui dit simplement à ceux qui s'adressent à eux, « Il te bénira, l'Éternel de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre, et puis voilà. » Cette lecture habituelle ne me convient absolument pas, vous vous en doutez. Elle ne me convient pas pour deux raisons. D'abord, parce que je ne crois pas une minute à ce qu'il puisse y avoir ce type de séparation des rôles. C'est-à-dire que le bon peuple s'adresse aux pasteurs, aux prêtres ou aux professionnels de la religion en leur disant « Tenez, vous qui êtes près de Dieu, bénissez Dieu !» Levez les mains, faites des bénédictions, faites vos prières et tous vos machins. Et puis qu'en échange de ça, le prêtre, le pasteur, le religieux puisse dire au bon peuple, l'Éternel te bénit. Donc cette espèce d'échange, si vous voulez, de religion, de relation à Dieu médiatisée par l'homme d'Église, me semble inacceptable, non seulement pour moi en tant que bon protestant, mais même incohérente par rapport à la vision de la relation à Dieu dans la Bible elle-même et dans l'Ancien Testament. Et la deuxième raison donc pour laquelle je n'aime pas cette lecture, c'est que, vous le savez, je l'ai déjà dit, un principe fondamental d'interprétation de l'Écriture, c'est de dire que tout texte parle de chacun de nous, aujourd'hui et maintenant. Et donc je ne vois pas pourquoi, dans un psaume déjà si court, il y en aurait les deux tiers qui ne me seraient pas adressés et qui se contenteraient de dire « Vous, là, tenez, louez l'Éternel, comme ça, moi, je n'ai pas besoin de le faire. » Et donc, je pense qu'on ne peut pas l'entendre comme ça et que forcément, l'ensemble du psaume s'adresse à nous. Et d'ailleurs, dans ce psaume, il y a un titre. Et ce titre est très souvent oublié, voire même retiré de certaines Bibles, c'est curieux, ou mis en italique, comme si c'était un titre de l'éditeur, alors que le titre du psaume fait partie du texte sacré, dirais-je. Et ce titre, c'est « Chant pour monter », parfois traduit « Cantique des degrés » ou « Chant ou cantique des montées ».« Cantique pour monter ». Et là encore, si vous reprenez le commentaire biblique que vous trouverez dans toutes les librairies, catholiques, protestantes ou autres, on va vous expliquer que ces cantiques des montées, qui sont le titre de tous les psaumes, entre 120 et 134, étaient pour indiquer qu'il s'agissait de psaumes de pèlerinage, c'est-à-dire des psaumes que l'on chantait quand on montait vers Jérusalem, comme le bon provincial monte à Paris. Et en effet, on devait faire des pèlerinages, et les gens chantaient ces psaumes en montant vers Jérusalem, ou encore, dit-on, ce pouvait être les psaumes que l'on chantait en montant au temple, puisque le temple était sur une hauteur et il y avait des escaliers, des degrés, comme on disait autrefois, et que donc c'était les cantiques des degrés, c'est-à-dire les cantiques des escaliers, ce que l'on chantait en montant en procession les escaliers qui mènent au temple. Là encore, cette lecture peut être juste historiquement, me passe totalement au-dessus de la tête, parce qu'aujourd'hui, je ne chante pas de psaume quand je monte les escaliers du temple, ce qui d'ailleurs m'arrive assez rarement, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, je crois. Et puis d'autre part, nous montons rarement à Jérusalem aussi. Et donc, je ne peux que l'interpréter une fois de plus pour moi, en me disant, oui, c'est un cantique pour monter, mais peu importe que vous montiez des escaliers, il s'agit de monter vers Dieu. Donc c'est un cantique pour s'élever vers Dieu. Voilà, et c'est ça le sens, je crois, de tous ces cantiques des montées. Comment s'élever spirituellement, comment monter vers Dieu, que l'on soit à Paris, à Jérusalem ou ailleurs. Et ici, d'ailleurs, il s'agit du dernier des psaumes démontés. Le 134, c'est le dernier de la série. C'est le plus court. C'est une forme de conclusion. Et je crois qu'il contient en lui-même comme un condensé, finalement, de tout ce qui est l'essentiel pour s'élever à Dieu. Et c'est pourquoi il faut le regarder d'un peu plus près. Et quand on le lit comme ça, on passe à côté de l'essentiel parce qu'on lit toujours trop vite. Cantique pour monter. Voici, bénissez l'Éternel, tous les serviteurs de l'Éternel, ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Alors l'ordre est clair. L'ordre est clair, bénir. Bénir Dieu. C'est un impératif. Et même dans l'hébreu, c'est une forme intensive, le piel, c'est-à-dire bénissez, bénissez, pas pour rire, hein, bénissez, bénissez l'Éternel. Vous tous les serviteurs, donc deux choses, bénir l'Éternel et se dire serviteur de l'Éternel. Alors ça semble sans grande importance, même un peu banal, parce que nous répétons cela dans nos églises souvent. Et pourtant, ce commandement est d'autant plus important qu'il est précédé de ce petit mot « voici ». Et ce petit mot « voici », excusez-moi, c'est une autre leçon d'exégèse biblique, ce petit mot « voici », quand il est au début d'une phrase, est ce que l'on appelle en exégèse biblique un marqueur prophétique, « hinné » en hébreu. Ça arrive dans les textes prophétiques, dans Ésaïe assez souvent, et quand la phrase commence par « voici », ça veut dire « attention ». Là, c'est Dieu qui parle, c'est une révélation extraordinaire, c'est l'expression de la volonté même de Dieu, c'est ce que Dieu veut nous dire de plus essentiel et fondamental. Et donc ce « voici » doit attirer notre attention. Chant pour monter, voici, attention, hein, c'est Dieu qui parle. Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel. Bénir l'Éternel, là encore aujourd'hui on ne sait plus ce que ça veut dire. En fait, ça vient d'un verbe hébreu, berek, qui veut dire se mettre à genoux. Et donc bénir l'Éternel, ça veut dire s'agenouiller. Et la bénédiction, j'en ai déjà parlé, c'était le geste du serviteur qui vient s'agenouiller devant son roi pour dire « Je suis à ta merci, je suis sous ta main, sous ta puissance, sous ta protection aussi, et voici, je suis là pour te servir. » Et donc bénir Dieu, cela veut dire reconnaître qu'il est le roi, qu'il est le maître, qu'il est celui qui a la possibilité de nous envoyer en mission et de nous donner la vie ou de nous laisser mourir. Et donc bénir, cela veut dire cela. Et ensuite, il y a la réponse du maître. Le roi, lui, bénit le sujet en réponse, puisque la bénédiction, ça va dans les deux sens, hein. On bénit Dieu et Dieu nous bénit. Et donc le roi ensuite bénit le serviteur en disant, « Eh bien, tu peux te relever, je te donne ce qu'il faut pour vivre, et voici ce que je te demande. » Voici ce que je te demande. Donc autrement dit, ce que nous sommes invités à faire, c'est à nous présenter effectivement à Dieu en disant « Je suis ton serviteur ». Bénir, c'est s'agenouiller. Je vous l'ai dit, c'est donc s'abaisser devant Dieu. S'abaisser devant Dieu pour que Dieu nous relève. Et ça, c'est assez étrange parce que effectivement, cela veut dire que on s'abaisse en se bénissant pour que Dieu nous bénisse, pour qu'il nous relève. Et c'est un thème biblique extrêmement fréquent, puisque, je vous l'ai dit, nous sommes, n'oubliez pas, dans le psaume, des montées. Et donc, comment vais-je m'élever à Dieu? Est-ce que je vais m'élever en essayant de progresser, d'être meilleur, d'être plus pur, d'être plus efficace, d'être plus saint, de mieux prier, d'être plus juste, d'être plus pieux, plus pratiquant? Non. Pour vous élever à Dieu, baissez-vous. Et donc je me baisse devant Dieu, et s'élever à Dieu, c'est justement non pas s'élever soi-même, mais c'est d'élever Dieu dans sa propre vie, c'est-à-dire de s'agenouiller devant lui. C'est ce thème que reprendra le Christ dans l'Évangile, quand il dira qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Eh bien, c'est la même chose dans ce psaume. Pour monter, descendez. C'est comme ça, ça paraît un peu bizarre, mais c'est néanmoins la logique biblique. Parce que, donc, on s'agenouille, on se fait serviteur, on dit qu'on met sa vie entre les mains de Dieu, et alors Dieu relève et envoie en mission. Et le psaume s'adresse à nous en disant « Vous tous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel ». Et là encore, vous disais-je, ce n'est pas le privilège des prêtres ou des pasteurs. Et la maison de l'Éternel, ça ne c'est pas un lieu, ce n'est pas un temple, ce n'est pas une église. Mais se tenir dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire être chez lui. Et je pense qu'il y a là une autre exhortation. Se tenir dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire être dans l'intimité de Dieu. Cela peut s'entendre de deux manières, soit d'une façon affective, qui consiste à rechercher l'intimité avec Dieu et se dire « moi j'habite avec Dieu, j'habite dans sa maison, je suis avec lui ». Cette présence de Dieu, on peut apprendre à la rechercher, on peut apprendre à la cultiver. Ça se cultive par la prière, par l'étude, par la lecture de la Bible, en y pensant simplement, en se souvenant que Dieu existe. Et donc, on peut travailler, je dirais, cette intimité avec Dieu. Pour vous élever, pensez simplement que vous habitez avec Dieu. J'ai marié un couple cet été, et le marié m'a fait un témoignage extraordinaire, qui était assez simple, mais que j'ai trouvé très beau. Je lui ai dit, mais alors, pour toi, Dieu, c'est quoi? Et il m'a dit, pour moi, Dieu, c'est mon pote. Eh bien, j'ai trouvé ça formidable. Dieu, c'est mon meilleur ami. Dieu, c'est celui qui m'accompagne. C'est celui qui est avec moi. C'est pas, vous voyez, un Dieu redoutable, parce que si Dieu est vraiment un roi redoutable, on n'y va pas. Moi, j'ai jamais été à l'Élysée. Hein. Pourtant, Dieu, il est plus que François Hollande. Eh bien, donc, c'est vous habitez dans la maison de l'Éternel. Être dans l'intimité d'un Dieu proche, ce Dieu qui est là, qui vous invite chez lui. Mais profitez-en, c'est pas tous les jours qu'un roi vous invite chez lui. Et sachez que ce Dieu, c'est donc un Dieu proche, un Dieu intime, ce Dieu qui vous invite chez lui, vous êtes chez lui. Dieu, c'est donc votre meilleur ami, c'est votre camarade, celui qui est avec vous dans votre intimité et dans votre présence. Ou alors on peut l'entendre autrement, parce que tout le monde n'a pas un tempérament mystique, et peut-être que pour vous, l'idée de vous dire que Dieu est proche, ça ne vous dit rien du tout. Alors à ce moment-là, bon, c'est un peu un pis-aller, mais ça n'est pas faux non plus, on peut l'entendre comme une dimension intellectuelle. Il faut habiter dans l'intimité de Dieu, c'est-à-dire être dans une intimité, une proximité intellectuelle avec Dieu, avec sa parole, avec sa loi, avec son enseignement. Et donc on peut dire, pour moi, même si Dieu n'est pas mon pote, l'Évangile, c'est ma maison. L'Évangile, c'est ma patrie. L'Évangile, c'est chez moi. C'est ma vie. C'est ma ville. L'Évangile, ce sont mes valeurs, c'est là où j'habite finalement, c'est ça ma référence fondamentale. Et donc vous tous, vous habitez la maison de l'Éternel, c'est-à-dire vous êtes dans cette proximité, vous êtes invités à être dans cette proximité avec Dieu, qui idéalement est une proximité à la fois intellectuelle et affective, et puis après on fait ce qu'on peut parce que nous ne sommes pas parfaits. Et donc vous tous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dit le psaume, pendant les nuits. Ah, ça c'est drôle ça, pendant les nuits. D'abord, pourquoi est-ce que les nuits sont là au pluriel? Alors, et que viennent faire ces nuits-là? Eh bien, j'ai deux solutions là encore. C'est que ça peut prolonger d'abord ce que je viens de dire, parce que dans la Bible, la nuit, c'est le moment de l'étude. Le jour, on bosse. La nuit, on réfléchit. C'est ça pour la Bible. Le jour, on travaille, on agit. Et la nuit, on médite. On prie, on réfléchit, on lit la Bible, on se rapproche de Dieu. Et donc voilà, pendant la nuit, habitez la maison de l'Éternel, c'est-à-dire, si vous n'avez pas le temps dans la journée, eh bien le soir, lisez la Bible. Et la nuit, priez. Ou autre solution, puisque, d'ailleurs, je vous l'ai dit, le mot nuit est au pluriel, et donc il peut très bien y avoir plusieurs nuits, eh bien, l'autre situation, c'est de dire la nuit, c'est la nuit de l'épreuve. En effet, quand je suis dans la lumière, je suis dans la présence de Dieu, et parfois je suis dans la nuit. C'est-à-dire que j'ai peur, je me sens coupé de toute source de vie et de joie. Eh bien, ce que dit le psaume, c'est même si vous êtes dans la nuit, ça peut arriver, hein, on est dans la nuit de la foi, de la confiance, de la joie, de l'espérance, de ce que vous voulez. Eh bien, même si vous êtes dans la nuit, vous pouvez toujours bénir l'Éternel et vous pouvez toujours vous dire son serviteur. Donc peut-être que pour l'instant, pour vous, les choses ne sont pas très agréables, eh bien au moins servez. Voilà, vous pouvez toujours servir. Et quelle que soit votre propre situation, vous pouvez toujours apporter quelque chose aux autres. Certains ont dit par exemple, « Oh ben moi, si je devais être envoyé en camp de concentration, j'aimerais mieux me suicider. » Alors aujourd'hui, il n'y a plus de camp de concentration, mais certains disent, « Oh ben moi, j'aimerais mieux me suicider que d'aller dans une maison de retraite. » Bon, eh bien écoutez, même si les camps de concentration sont des camps de la nuit, et même si certaines situations sont des lieux de nuit, eh bien, si ce n'est pour vous, au moins pour les autres, vous pouvez servir l'Éternel. Et au moins pour les autres, vous pouvez leur apporter quelque chose. Et où que vous soyez, en tout cas, Dieu sera toujours présent. Et donc, où que vous soyez, vous pourrez toujours garder ce Dieu et être en face de ce Dieu qui sera toujours pour vous une source de joie, de force, d'espérance, de confiance et de vie. Et puis vous pourrez toujours vous dire, Seigneur, je suis ton serviteur. Et donc je suis là, peut-être que je suis malheureux, mais il y a aussi là d'autres gens qui, eux, n'ont pas plus choisi que moi d'y être et qui sont peut-être encore plus malheureux que moi. Et à eux, je peux apporter quelque chose. Et donc simplement, voilà, ce n'est pas parce qu'on est dans la nuit qu'il faut attendre sans rien faire. Dans la nuit, il y a beaucoup à faire. Et peut-être justement parce qu'on est dans la nuit, il y a d'autant plus à faire. On pourrait mettre ça en relation avec la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles qui, dans la nuit, s'endorment et ne font plus rien, en disant « Oh, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de chance, ça ne viendra jamais, il ne se passera rien. » Et les vierges sages qui veillent, justement, et qui disent « C'est la nuit, mais il y a une espérance qui est à venir, quelque chose à attendre, quelque chose à faire, et donc elles veillent, elles travaillent, elles vont chercher de l'huile pour leurs lampes, etc. » Et donc, se dire serviteur, vous voyez, c'est banal, mais pourtant, quelle vérité, quelle belle chose, quelle grandeur pour donner un sens à la vie. Et il m'a été dit, une fois, je ne sais pas si c'est vrai, que dans certaines régions de France, l'habitude était, chez les protestants, de dire, le matin, quand vous vous levez, avant même de poser le pied par terre de votre lit, de dire... Voici le serviteur de l'Éternel. Ou alors, voici Seigneur, je suis ton serviteur. Et donc, d'ouvrir la journée, justement, en se positionnant comme en disant, me voici ton serviteur. Ça, c'est une des plus belles choses qui soit et quelque chose qui donne un grand sens. Et puis, le psaume, d'ailleurs, n'en reste pas là, parce qu'il dit encore, levez vos mains. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire, levez vos mains. C'est un autre impératif, là aussi, il faut lever les mains. Alors je pense que les mains, ce n'est pas lever les mains comme vous savez, les prières charismatiques, Dieu se fiche complètement qu'on lève les mains. Mais c'est lever la main c'est l'action. C'est-à-dire, justement, aller agir concrètement. Et s'il s'agit de la nuit de l'étude, eh bien d'accord, étudiez, soyez dans la maison de l'Éternel. Mais ensuite, levez les mains, c'est-à-dire, allez, on relève les manches et on sort les mains. Et on y va, on se met au boulot. Et donc agissez concrètement, ne restez pas dans l'étude, ne restez pas enfermés dans le temple de l'Éternel. Et là, certaines traductions qui ont donc toujours tort disent, enfin toutes les traductions disent, levez les mains vers le sanctuaire, comme si il s'agissait de dire « Ah, Seigneur !» J'en crois pas une minute à cela non plus. D'ailleurs, le psaume ne dit pas « Levez les mains vers le sanctuaire », le psaume dit « Levez les mains » virgule, sainteté. C'est ça la sainteté, c'est de lever les mains. Lever les mains, c'est la sainteté. La sainteté, c'est d'agir, c'est de se faire serviteur. Le serviteur, il n'est pas fait pour rester là à écouter son maître en permanence. Le serviteur n'est pas là pour rester à genoux en adorant son maître et son Dieu. Et le serviteur, il n'est pas là pour dire sans arrêt, pour flatter son maître en disant « Oh, est-ce que tu es beau ? Oh, est-ce que tu es grand ? Oh, est-ce que j'aime t'écouter ?» À un moment donné, le maître va dire, écoute, serviteur, c'est bon, hein, arrête de me cirer les pompes, mets-toi au boulot, bon sang. C'est ça le serviteur. Et les chrétiens ont tendance à oublier ça. Ils croient que servir Dieu, c'est dire, amen, Seigneur, je t'aime, je lève les mains vers ton sanctuaire. Mais je ne sais pas, si jamais vous êtes vous serviteur, essayez ça avec votre patron, de passer votre temps à écouter et à dire qu'il est bien. Si vous ne faites rien, ça n'ira pas. Et si vous engagez une bonne pour votre service et qu'elle passe son temps à vous adorer et à trouver que tout ce que vous dites, c'est formidable, mais qu'elle ne fait ni la vaisselle ni le ménage, vous la mettrez dehors. Et donc, c'est bien ça. Élevez les mains, sainteté, c'est ça la sainteté. La sainteté, c'est pas de s'enfermer dans les prières et dans les salamalek. La sainteté, c'est d'élever les mains et de dire, allez, eh ben on y va, on relève les manches et on se met au travail. Saint, ça veut dire être à part, être différent du reste. Saint, la sainteté dans la Bible, ce n'est pas la perfection, mais c'est ça qui fait l'originalité du croyant. Ce qui fait qu'il est à part, c'est qu'il lève les mains pour les mettre au service de Dieu. Et puis à la fin de ce psaume, donc le dernier verset, il y a une promesse, qui ce coup-ci n'est plus au pluriel, c'est plus lever les mains, prier, etc., c'est l'Éternel te bénit, toi, là, de Sion. C'est-à-dire que tout à coup, on arrive à quelque chose d'infiniment personnel. C'est vraiment pour toi, là, ici. L'Éternel, il te bénit de Sion. Oui, la formule semble, là encore, un peu stéréotypée. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Bon. Mais en fait, c'est une affirmation très forte. D'abord, je vais encore une fois, excusez-moi, taper sur les traductions, qui disent à chaque fois « Que l'Éternel te bénisse de Sion ». Je ne sais pas où ces traducteurs ont trouvé ce subjonctif ou cet optatif, comme on dit en grec. Ce n'est pas du tout écrit à l'optatif, c'est un futur, un indicatif. L'Éternel, il te bénira de Sion. Donc ce n'est pas « je te souhaite que l'Éternel te bénisse », c'est « l'Éternel te bénira ». C'est-à-dire que c'est une promesse, c'est une certitude. C'est quelque chose qui est donné, si vous voulez. Ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas qu'il te bénisse, mais c'est il te bénira. Et c'est même plus que ça, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de futur, ou plutôt il n'y a pas de présent. Le futur est aussi présent. C'est donc non seulement l'Éternel te bénira, mais c'est aussi l'Éternel, il te bénit. Moi, je te dis, l'Éternel, il te bénit. Ce n'est pas que l'Éternel vous bénisse, l'Éternel te bénit, je te le dis, c'est sûr, et il continuera de te bénir, il te bénira toujours. Tu peux compter dessus, et c'est même encore très fortement, encore là, avec cette forme verbale d'intensif à l'hébreu, oui, vraiment, vraiment, c'est sûr, l'Éternel te bénit et il te bénira. Eh bien, justement, voilà la bénédiction dans l'autre sens. Tout à l'heure, on avait la bénédiction montante, bénissez l'Éternel. L'Éternel, lui, il te bénit. Ça, c'est la seule chose sur laquelle on puisse compter. La seule chose sûre, c'est que l'Éternel te bénit. Maintenant, je vous invite à bénir l'Éternel. Mais de toute façon, l'Éternel te bénit. Et donc, cette bénédiction qui montait maintenant, voyez-vous, redescend, elle va dans l'autre sens. Elle va de Dieu vers le serviteur pour dire, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, le maître qui dit, eh bien, tu es mon serviteur. Je te donne tout ce dont tu as besoin, je t'envoie en mission et je te donne tout ce qu'il te faudra pour aller en route. Là encore, ce mouvement de montée et de descente dans ce psaume des montées, pour s'élever, je m'abaisse et lui me relève, je m'abaisse pour que ma bénédiction s'élève à lui et lui fait descendre sur moi sa bénédiction qui me relève. Bon, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et alors, comment me bénit-il, tiens, ce Dieu, d'ailleurs? Il me bénit. Bon, ça me fait une belle jambe. Mais comment me bénit-il? Eh bien, le psaume le dit. Dieu te bénit de Sion, c'est-à-dire de sa montagne sainte, bon, très bien, lui qui fait les cieux et la terre. Ce sera la dernière faute de nos traducteurs, qui ont réussi, donc déjà, on a cumulé au moins 5 ou 6 en 2 versets, ce qui est un prodige. Nos traducteurs disent, lui qui a fait les cieux et la terre. J'ai jamais vu la moindre trace de passé dans le texte original. Dans le texte, il y a un participe présent. Lui qui est en train de créer le ciel et la terre. C'est-à-dire, ce n'est pas un Dieu qui a fait le ciel et la terre et qui maintenant se tourne les pouces. Dieu te bénit parce qu'il est en train de créer le ciel et la terre. C'est maintenant, en ce moment, quelque chose qu'il est en train de faire. Il est en train de créer. Cela veut dire que même pour moi, Dieu peut aussi être une puissance de création, de recréation. Et c'est comme ça qu'il me bénit. Parce que Dieu est une puissance qui peut me transformer, me revitaliser, me reconstruire. Dieu, aujourd'hui, il me crée ciel et terre, je dirais corps et âme, corps et esprit. Et Dieu est une puissance de guérison en moi, de résurrection. Et Dieu peut panser mes plaies, il peut me remettre debout, il peut me reconstruire, il peut me, je dirais, me recoller quand je suis éclaté, dispersé. Dieu est une puissance qui est en train de pouvoir me créer. Dieu est en train, en moi, de créer le ciel et la terre. Avec lui, je peux grandir. Et c'est vrai aussi pour le monde autour de moi. Je crois que, même si je ne crois pas que Dieu agisse dans le monde comme ça, comme une sorte de magicien envoyant des tempêtes, des accidents, des guérisons, des guerres ou autre chose, je crois que Dieu est sans cesse une puissance créatrice dans le monde. Et donc Dieu me crée à moi, il agit sur moi par son acte créateur, mais même moi, perdu dans ce monde, je crois que Dieu est aussi à l'œuvre dans ce monde qui m'entoure. Parce que le monde qui m'entoure, il est dur, il est parfois désespérant, décourageant. Eh bien Dieu, il est en train de m'ouvrir des passages, il est en train de créer des brèches dans les murs qui m'enferment et qui me découragent. Dieu, il est à l'œuvre en ce moment. Donc ayez confiance. Dieu peut faire du neuf, il peut faire en sorte que l'imprévu surgisse dans votre vie, justement pour échapper au déterminisme de ce monde, parfois décourageant tel qu'on nous le présente. Dieu crée, il ouvre, il renouvelle, il ressuscite, il guérit intérieurement, il fait que l'impossible, l'improbable peut tout à coup, à tout moment se produire, et il peut faire en sorte que ce que nous n'imaginions même pas puisse devenir la réalité. Donc oui, c'est une belle bénédiction parce que je peux toujours espérer. Il faut simplement que je reste disponible, les yeux ouverts, à l'écoute de ce Dieu en le bénissant, en disant « Oui, je reste devant toi, Seigneur, parce que je sais que de là-haut, il y a des choses qui peuvent venir et qui peuvent m'indiquer le chemin de la vie. » Et puis aussi, je peux et je dois garder confiance parce que je vous ai dit l'imprévu, l'improbable peut arriver. Et peut-être pensez-vous en disant ben peut-être tant mieux, peut-être pas tant mieux parce que l'imprévu et l'improbable n'est pas toujours souhaitable. Mais en même temps, n'ayez pas peur parce que le Maître vous bénit et donc il ne vous laissera pas partir sans aide. Certainement, le Maître envoie son serviteur avec une mission difficile, dangereuse, périlleuse. Mais le Maître n'envoie pas son serviteur chéri sans viatique, sans ce qu'il faut, ou sans garde, sans soutien. Dieu ne nous laisse pas partir sans aide, sans escorte. Et donc, nous ne sommes pas seuls, envoyés, je dirais, dans le casse-pipe du monde, dans l'angoisse d'un monde hostile, mais nous sommes envoyés en mission avec Dieu qui nous donne tout pour y arriver. Nous avons tout avec nous. Et nous savons que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous, et que, quoi qu'il soit, Dieu sera toujours vainqueur. Chant pour monter, voici. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, vous tous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel dans les nuits. Levez vos mains, sainteté, et bénissez l'Éternel. Il te bénira, l'Éternel de Sion, lui qui fait les cieux et la terre. Amen.